Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et dans ce podcast que vous retrouvez sur Apple Podcasts ou Spotify, on revient en 4 épisodes sur la pandémie de Covid-19, 4 ans après le premier confinement en France, le 17 mars 2020. Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse aux impacts sanitaires du virus SARS-CoV-2 qui a provoqué à partir de 2020 une épidémie de Covid-19 dans le monde. Au moins 20 millions de personnes sont décédées de la maladie selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Sans compter toutes les personnes souffrant des séquelles d'un passage en réanimation et tous les autres souffrant d'un Covid long. L'invitée de cet épisode est Anissa Boumediene, journaliste santé à 20 minutes. Bonjour Anissa. Tout d'abord, pourquoi ce nouveau coronavirus s'est-il diffusé si facilement dans le monde?
Bonjour Anne-Laetitia. En fait, c'est un virus qui provoque des symptômes respiratoires et qui a du coup une capacité de diffusion très très performante, c'est-à-dire qu'il se transmet par gouttelettes. Il suffit d'une pièce mal aérée, de quelques petits postillons qui font que c'est très très facile et très rapide de contracter le virus. Et puis en plus, ça arrive au cœur de l'hiver, donc dans des intérieurs moins bien aérés, où les miasmes ont tout le loisir de proliférer et de venir s'accrocher à nous et nous contaminer.
Ce SARS-CoV-2, il y a quand même un contexte de pandémie qui s'accélère depuis une trentaine d'années.
Oui, bien sûr. Bah, on a une modification, on va dire le grand mot de mondialisation, et puis aussi l'urbanisation, la densification, où on va être plus facilement, trop facilement, dans certains endroits du globe, au contact d'animaux infectés qui sont des réservoirs de virus. On a parlé au début de ces pauvres pangolins, mais on parle aussi des chauves-souris, des singes, on parle de zoonoses, de ces virus qui sont apparus chez l'animal et qui, justement, à la faveur de ces contacts rapprochés, se transmettent à l'homme.
Ce virus, on pourrait dire qu'il est aussi parfait. En anglais, on parle de perfect storm, d'orage parfait, parce qu'il avait aussi une transmissibilité assez extraordinaire. Une personne qui infecte entre 2,5 et 3 personnes en moyenne.
Le fameux R0 ou taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade peut contaminer autour de lui. Et ce qui a fait la force de ce virus, c'est justement que les personnes symptomatiques, mais aussi asymptomatiques, pouvaient transmettre le virus à un nombre assez impressionnant de personnes autour d'elles. Et si tu te souviens bien aussi, au début de la pandémie, à un moment, on a parlé de supercontaminateurs et qui ont pu contaminer des dizaines de personnes à elles seules. L'effet boule de neige et cluster a fonctionné à plein.
Quels sont les impacts sanitaires sur la population? Tout d'abord, la mortalité.
Oui, alors ça c'est sûr que c'était de véritables hécatombes au début de la pandémie dans les EHPAD. Par définition, les personnes les plus vulnérables, immunodéprimées, multipathologiques, donc ce sont elles qui ont été touchées les plus durement en premier. On a vu aussi d'autres catégories de personnes. On a parlé de facteurs favorisants, parmi lesquels l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Toutes ces pathologies qui, chez des personnes qui étaient vulnérables au départ, ont donné une emprise d'autant plus redoutable au coronavirus. Oui.
Selon Santé publique France, 170 000 personnes sont décédées liées au coronavirus. Et tu le dis bien, ça n'englobe pas tous les chiffres.
Oui, ce sont des chiffres qui sont bien en deçà de la réalité, puisqu'il y a eu toute une catégorie, plusieurs catégories de décès qui n'ont pas été comptabilisées. Une partie des morts dans les EHPAD, alors que c'était directement lié au Covid-19, n'ont pas été pris en compte. Une partie des personnes vulnérables qui sont décédées à domicile aussi. Donc en fait, on a des chiffres officiels, qui se veulent les plus exhaustifs possibles, mais on a toujours su que par essence, ils étaient bien en deçà de la réalité.
On estime qu'environ 150 000 personnes en France sont passées en réanimation. La réanimation, c'est des soins critiques, c'est-à-dire que ça laisse aussi des traces et que les séquelles peuvent être aussi parfois très lourdes. Et d'après l'INSERM, il y aurait environ 4% de la population française qui a été touchée par un Covid long. Déjà, le Covid long, c'est quoi ?
Le Covid long, c'est quand on a des symptômes persistants de la maladie, plusieurs semaines après avoir été contaminé. Des symptômes qui affectent la qualité de vie, qui affectent ses capacités au quotidien. Et ce qui est encore difficile à vivre pour nombre de malades qui sont touchés par le Covid long et qui rejoint les symptômes persistants aussi chez des personnes qui ont eu des formes graves et qui ont été en réanimation. Ce qui est particulier avec le Covid long, c'est qu'il a touché beaucoup de personnes jeunes qui, quand elles ont été contaminés par le coronavirus, ont développé une forme, on va dire, légère à modérée. On a vu des vagues de personnes d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, quarantaine d'années, qui en fait ont plutôt sombré, en fait. C'est-à-dire que l'impression de vivre un Covid sans fin.
Les gens ne comprennent pas qu'on puisse toujours avoir mal après autant de temps. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais été dépressive. Hein. J'ai tout le temps la forme, je suis optimiste.
Pauline Oustric, chercheuse et malade du Covid long, présidente de l'association hashtag après J20, le 1er décembre 2020.
Je ne peux toujours pas faire une activité active. Je ne dis même pas physique, c'est être active. Je ne peux pas marcher longtemps, je ne peux pas bouger, je ne peux pas lever des choses, je ne peux pas soulever quelque chose de lourd ou même de pas très très lourd, hein, un plat, une assiette. Il y a encore un gros progrès à faire au niveau des traitements du Covid long.
Ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, voient leur vie d'avant s'arrêter, parfois à devoir retourner, comme c'était le cas d'une patiente que j'avais interviewée, à devoir arrêter de travailler, retourner vivre chez ses parents parce que des tâches élémentaires comme faire les courses, se concentrer au boulot devant son ordi, sont devenues totalement impossibles, parfois 3 ans après la contamination initiale.
Rappelons que l'Institut Pasteur dit que 4% de la population française a été touchée par un Covid long et ajoute en disant que c'est un chiffre qui est énorme. Et ironie de l'histoire, c'est que de plus en plus de centres de Covid long ferment petit à petit leurs portes et ça, on n'en entend pas trop parler.
Oui, on a constaté ces derniers temps parce que on est passé dans la phase du vivre avec le virus. C'est cette fameuse fin du quoi qu'il en coûte. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué de continuer à allouer des moyens financiers et humains à la prise en charge de ces patients. Certains témoignent de la fermeture de ces structures et témoignent de leur désarroi et de ce sentiment d'être aujourd'hui un peu abandonnés à ce Covid long.
On a su très tôt qu'il fallait au moins que 2/3 de la population soit infectée pour qu'il y ait une immunité collective. Or, c'était impossible de pouvoir sortir de cette crise sans vaccin. Sinon, ça aurait été aussi des dizaines, encore plus des centaines peut-être de millions de morts. L'année 2020, c'était quand même la course au vaccin.
Et c'est une course inédite, parce que si tu compares à d'autres maladies, ça fait des décennies que des recherches sont en cours pour élaborer des vaccins contre le VIH, contre le cancer. Et là, en fait, on a vu une débauche de moyens. Il n'y a pas de secret, c'est le nerf de la guerre. Ça accélère grandement le calendrier.
Ces vaccins, ils ont sauvé de nombreuses vies. Je paraphrase Arnaud Fontané, qui est professeur à l'Institut Pasteur et au Conservatoire National des Arts et Métiers, qui a été membre du Conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement français de mars 2020 à juillet 2022. Il y a eu environ 20 millions de morts, mais les vaccins ont aussi sauvé 20 millions de personnes dans le monde. Autre chiffre, qui n'est pas une estimation, mais un chiffre du Bureau Régional Européen de l'OMS, qui dit que en janvier 2024, il y a eu une étude révélant que au moins 1,4 million de vies dans la région européenne ont été sauvées par les vaccins.
C'est une réalité. Et l'exemple le plus marquant, c'est la population ciblée au départ par cette campagne de vaccination, à savoir les plus vulnérables, les personnes âgées, les résidents d'EHPAD. Au début de la pandémie, le mot est terrible, mais il illustre la réalité, ça a été une hécatombe dans les EHPAD. On voit bien à quel point la vaccination a changé la donne et a sauvé des vies.
Thank you. La santé mentale des personnes âgées, mais la santé mentale aussi des plus jeunes a été énormément impactée dans cette crise. De nombreuses études ont révélé que les adolescents, et notamment les adolescentes, ont été le plus marqués par cette crise sanitaire. Et ça s'est manifesté notamment par de l'anorexie en plus, et aussi des tentatives de suicide. Donc la santé mentale est aussi un impact de cette crise sanitaire du Covid-19.
Oui, il y a eu un impact en fait assez multifactoriel sur la santé mentale. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus sortir, ça c'est dur. Quand on passe un temps aussi long dans une anxiété ambiante, alors forcément ça vous atteint.
Bah là, j'ai la même vie que mes grands-parents. Hein. Eux, comme moi, vont pas bien.
Inès, étudiante en architecture souffrant de solitude, le 18 novembre 2020.
La vie de mes parents n'a pas beaucoup changé. La plupart de mes potes travaillent au moins à temps partiel. Et du coup, je pense que les deux parties de population qui se sont fait isoler de ça, bah, c'est nous, les étudiants et les personnes âgées.
Et puis, dans cette crise sanitaire, il y a un impact sur les revenus des plus modestes.
Pour ceux qui étaient boursiers ou les plus précaires, du jour au lendemain, bah, tu peux plus sortir. Donc, tu n'as plus non plus ton petit boulot qui te permet de payer ton loyer, de payer tes courses. Donc, en plus d'être seul chez toi, déprimé, tu n'as plus les moyens de te nourrir. Si tu te souviens des longues files d'attente d'étudiants précaires qui n'avaient pas de quoi acheter à manger et qui allaient dans des épiceries solidaires pour la toute première fois, juste pour pouvoir manger parce que c'était devenu un luxe. On comprend à quel point l'impact du Covid sur la santé en général et la santé mentale en particulier a été ravageur.
Retrouvez-nous demain pour le troisième épisode sur les 4 ans du Covid-19. Alexandre Vella, journaliste de 20 minutes à Marseille, va revenir sur le microbiologiste marseillais Didier Raoult, qui a été à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille et surtout fervent promoteur du médicament hydroxychloroquine. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre appli d'écoute préférée, ce sera peut-être Podcast Addict. À très vite.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.